Alors la représentation de Chaos Vaincu dans le roman, c'est dans le livre qui s'appelle Commencement de la fêlure. C'est un double spectacle dans le roman parce qu'on montre en même temps le spectacle qui se déroule sur scène et l'autre spectacle, c'est l'apparition irradiante de Lady Josiane qui donne l'occasion de faire son portrait dans les yeux, à partir des yeux de ce qu'elle étonne, quoi, cette femme qui irradie. Et donc le problème de représentation consiste à montrer effectivement en même temps le spectacle emboîté et en même temps les spectateurs, un peu de la même façon que dans Hamlet, Shakespeare prétend mettre sur scène en même temps le spectacle de l'assassinat du roi et les réactions des spectateurs. Scéniquement, vous résolvez ça comment?
Bah c'est pareil, on est tenté de faire, on essaie de faire des choses très très simples en espérant que le texte et la mise en espace va permettre aux spectateurs d'imaginer ça. C'est très difficile dans la description de Josiane dans le roman. Elle a un œil bleu et un œil noir. Bon, évidemment, ça, c'est sa dualité. Elle a un œil au ciel et un œil en enfer. Alors, on peut pas rendre ça au théâtre, c'est pas possible. Au cinéma, on pourrait à la rigueur, mais au théâtre, c'est pas possible. Donc, c'est toujours pareil. C'est à nous, par le texte, par les commentaires, on fait parler aux mots, là, en disant qu'ils commentent un peu la découverte de Gwynplaine et ce que ça provoque, l'apparition de Josiane, c'est-à-dire, en fait, la tentation et la chair. Là, ça devient du récit théâtral pour nous. Donc, c'est aux mots qui de l'extérieur, racontent ce que Gwynplaine est en train d'éprouver.
Donc c'est Homo qui fait le portrait. Sur cette dualité de regard œil bleu, œil noir, j'explique aux étudiants que, en fait, c'est pour signifier, pour ceux qui connaissent, mais le destinataire du roman qui n'est pas nous, qui est mort il y a 150 ans et censé reconnaître, c'est pour signifier la sorcière. C'est-à-dire, on sort à peine d'une période à l'époque du Second Empire en France, on a brûlé pendant des centaines d'années des sorcières, et les sorcières se reconnaissent au regard, elles n'ont pas le regard immobile, comme dit Apollinaire dans Nuirénan. On brûlait des femmes parce qu'elles avaient la malchance d'avoir des yeux de couleurs différentes, donc les yeux du diable, et même parce qu'elles avaient ne serait-ce qu'un léger strabisme, c'était suffisant pour envoyer des femmes au bûcher.
Bien sûr.
Et c'est un signal qui est donné dans le roman. D'ailleurs, plus loin, au moment où Gwynplaine la retrouve dans ce qui est censé être son château, qu'il découvre, il y a deux chapitres successifs, le premier où il la voit nue, et le suivant où elle parle, le premier de ce chapitre s'appelle Ève, le suivant s'appelle Satan.
Mm-hmm.
Et c'est dans le suivant qu'elle lui dit qu'elle est une fée, mais qu'elle aime le chaos.
Oui, bien sûr, il y a tout son ben ça, on a cette scène dans le spectacle où la grande scène de séduction où elle explique en fait que pourquoi elle aime le chaos. Pourquoi en même temps elle est pure, parce qu'elle est toujours vierge, ce qui est amusant, puisque c'est une séductrice énorme, et on se rend compte qu'elle s'est gardée pour une occasion, et l'occasion, la voilà, c'est de se donner au monstre. Donc elle explique le désir, ce qu'elle appelle une femme qui peut être fange, c'est-à-dire le désir de la fange, et c'est son désir qu'elle vit à ce moment-là.
Je pose encore une question sur L'homme qui rit, puisqu'on est dans le sens de la fable. L'homme qui rit est un roman qui traite de morale, même si c'est un mot qu'on trouve rarement dans le roman. Mais effectivement, c'est la grande question de L'homme qui rit, c'est le bien, le mal, les différents visages du mal, etc. Dans un monde placé sous le regard de Dieu, dans un monde décrit pour justifier, c'est le sens même de l'épigraphe de L'homme qui rit et du projet qu'il avait de faire une trilogie, un monde décrit pour justifier la révolution comme un mal nécessaire, appelé à nettoyer l'aristocratie qui transforme les hommes en bêtes et les bêtes en hommes. C'est un roman qui finit mal. Pour les personnages qui sont censés représenter, avec, c'est très souligné, la sympathie, la solidarité du narrateur, est-ce que c'est un roman pessimiste pour vous?
Alors ça, c'est une des grandes questions du roman. D'abord, il finit mal, oui, c'est vrai. Mais ça, on l'avait senti. Déa, il l'a décrit de plus en plus atteinte physiquement. C'est-à-dire que au milieu du roman, on se rend compte qu'elle va pas, elle va pas vraiment s'en sortir. Donc, elle meurt à la fin. C'est un peu une petite Cosette poitrinaire à la fin. Et donc elle va mourir. La grande question, c'est Gwynplaine. Bon, ça, il a fait une chose assez précise. C'est-à-dire qu'il l'a fait tomber. Il l'a fait tomber pour rejoindre une étoile. Et en même temps, il lui a fait, parce pour que, à mon avis, pour que ce soit clair, parce qu'à un moment après la Chambre des Lords et quand son frère le gifle, il est complètement perturbé et il a la tentation du suicide. C'est-à-dire qu'il va au bord d'un parapet, il se met les mains derrière le dos, il dit soit, et il est prêt à sauter. Et là, il est sauvé par le loup. C'est-à-dire, il est sauvé par la bête. Donc, cette tentative, elle est très claire. Et la fin, quand il tombe dans l'eau, c'est plus un suicide, c'est descendre en bas pour rejoindre le haut. C'est-à-dire, il voit une étoile. Alors, est-ce que l'étoile se reflète dans l'eau? Est-ce qu'elle est aussi au fond de l'eau? Donc, il descend, il tombe dans l'eau pour rejoindre cette étoile. Donc, ça n'est plus un suicide, c'est une chute ascension.
Oui, donc une salvation en fin de compte, aussi bien pour Dea que pour Gwynplaine. Mais c'est quand même un roman où, en fin de compte, si on compare surtout la première partie et la seconde, la fin de la première partie laisse le lecteur dans la certitude que dans ce monde, regardé, dirigé par Dieu, il y aura de la commisération pour les faibles, pour les enfants, pour ceux qui souffrent, et que les méchants de ce monde sont sévèrement punis. C'est sur cette idée que finit la première partie. Et lorsqu'on termine la seconde partie du roman, Barkilphedro est vivant. On pourrait même continuer un roman encore derrière, Barkilphedro en Amérique, etc. C'est-à-dire on peut faire plein de choses à partir d'un personnage comme ça. Et les personnages sympathiques, eux, meurent. L'aristocratie, elle continue à bien se porter.
Ah oui, mais c'est toujours comme ça.
Dans la réalité non, ou dans
le... Dans la réalité, il continue toujours.
C'est vrai. C'est vrai que si on fait un roman historique...
Ça continue, il y a rien qui change.
C'est ça, moi, que je trouve passionnant aussi dans le roman, c'est-à-dire que la rencontre avec le monde renvoie à des conflits personnels que les grands de ce monde n'ont absolument pas, bien sûr. Et donc c'est là qu'on réfléchit aussi sur les valeurs, et c'est là que Gwynplaine revient à Dea. C'est après cette réflexion sur les valeurs, ces tourbillons, il revient vers quelque chose de fondamental, qui est son enfant, son amour d'enfant, puisqu'il l'a sauvé, donc c'est sa préciosité, c'est donc un retour à ça. Et ça, c'est pas un abandon du monde, c'est simplement un besoin personnel qui devient plus important que les possibilités utopiques, d'une certaine façon, de changer le monde. Alors que on sait très bien que si on va essayer de changer le monde, on va se perdre soi-même. Et Gwynplaine fait ça, en fait. Il est au bord de se perdre soi-même, because tout d'un coup, il a cette tentation du grand discours de la Chambre des Lords qui est de changer le monde. Et d'accuser les puissants.
Je vais faire un peu comme Hugo qui, à chaque fois qu'il annonce un chapitre en disant c'est la fin, on trouve encore les moyens d'en faire un derrière. Donc je voudrais poser une ultime question. Pourquoi montrer l'homme qui rit? Pour vous, hein, mais pourquoi, quel intérêt avez-vous vu, puisque vous l'avez fait, de monter l'homme qui rit pour des spectateurs du 21e siècle? Pour vous, qu'est-ce qui devrait intéresser, dans un roman aussi marginal, dans son adaptation, un spectateur du 21e siècle?
Would you like me to answer that?
Maybe, alors we'll do.
Bon, comme j'ai dit, moi j'ai lu pour la première fois, après j'ai vu l'adaptation de Vincent à Minneapolis. C'est une histoire qui touche profondément l'histoire d'un enfant aveugle qui était laissé dans la neige. Et un jeune qui découvre, qui est mutilé, qui découvre un enfant, et au lieu de laisser, il prend parce qu'il a une sensation humaine. Il trouve l'abri par un homme philosophe qui habite dans une caravane avec un loup, qui joue le théâtre, qui a du magie. Il y a tellement des éléments qui, même si c'est une histoire tragique, mais c'est moi je trouve tellement touchant l'histoire et le réflexion sur c'est quoi, qui est pauvre, qui est riche, c'est quoi richesse, est-ce que c'est à l'intérieur matériel, tout ça, c'est tout là. Et je crois la vie, ça change pas. Nous qui voyageons beaucoup, on va en Inde souvent, qu'on voit les gens qui habitent dans la rue, ou carrément dans les tas, de la poubelle du monde, et la dignité et la joie de vivre même dans cet état, pour moi, il va être, et j'espère éternellement, touchant et positif. Alors, pour parler d'aristocratie, bon, on fait les révolutions, d'accord, mais il y a toujours le pouvoir. Alors, moi, si soit c'est un roi ou un président, c'est exactement le même. Alors, on peut penser qu'on change la société, mais ça ne change pas. Mais l'homme même, la vraie matière de l'homme qui est de la lumière et de la souffrance et tout ça, pour moi, c'est éternellement touchant. Voilà. Si je peux me permettre de parler comme ça, parce que c'est pour ça qu'on fait le théâtre, c'est pour essayer de toucher les gens sur les thèmes comme universels et éternels. Et je crois Victor Hugo, c'est pour ça, moi, qui je ne suis pas du tout quelqu'un de littéraire. Mon père, oui, moi non. Moi, je suis un acteur, c'est une chose physique. Moi, je dis rien, mais moi, j'ai besoin de mettre ça en physique. Et je trouve cette histoire très, très théâtrale, qui est la liaison pour nous qui fait Shakespeare et Victor Hugo back to back, ou face to face. Ça, c'est... Bon, moi, je trouve ça... C'est pour jouer une soirée Shakespeare et le lendemain, L'homme qui rit, ça fait quelque chose.
Bien sûr. Surtout dans la mesure où il s'agit quand même du roman le plus shakespearien de Victor Hugo, et pas parce que ça se passe en Angleterre. Pas seulement, en tout cas.
Et nous, on était créés en Cornouailles où le spectacle, où le roman commence.
À Portland.
À Portland. On était juste à côté. Et on voyage dans les caravanes, on n'a pas des loups, mais on a des sauvages avec nous.
Merci pour cette approche de l'homme qui rit. Mais est-ce qu'on peut se quitter sur une chose qui devrait intéresser certains de mes télé-étudiants ? Mes télé-étudiants, par définition, travaillent. Certains travaillent aussi dans le monde du spectacle. Les origines du Footsparn et votre école au sens large d'école de théâtre, vous accepteriez d'en dire quelques mots ?
Mais oui. L'origine de Footsparn, le nom dit Lagrange de Monsieur Foot, qui est quelqu'un qui était né en Cornouailles, c'est pour ça qu'on a commencé là. C'est quelqu'un qui était à le Goddard College à Vermont, où il y a Bread and Puppet Theatre. Et John, il était à le même temps que notre étudiant John Paul Cook, qui était de Cornouailles. Et tous les deux étaient les jeunes étudiants qui ont eu un rêve de faire un théâtre populaire dans les zones rurales et accessible à tout le monde. Et je crois l'effet sûrement d'avoir Peter Schumann, Bread and Puppet à côté, a stimulé un certain imaginaire. Et aussi John Paul Cook, il a fait l'école de Jacques Lecoq, qui on peut dire, je crois, pour Footsparn, c'est un peu le gourou de notre approche vers le théâtre. Vincent, il a fait la même école. Moi, j'ai fait, dans le troupe aujourd'hui, elle qui joue Dea, elle a aussi fait cette école.
Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur cette école et sa spécificité ? Ça fait une dizaine d'années que Jacques Lecoq est mort. Et je pense que peut-être maintenant, on sait beaucoup moins ce qu'il a représenté dans le domaine de la pédagogie à Paris. Notamment sa spécificité.
Ben, je crois que sa spécificité, c'est d'abord le théâtre du geste, c'est-à-dire le refus d'une façon psychologique d'aborder le théâtre et d'aborder le théâtre avec tout son corps, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Le corps poétique, et ça résume le corps et qu'il soit poétique sont vraiment des éléments fondamentaux de Jacques Lecoq. L'autre chose qu'il apprend aux gens, c'est de devenir un créateur, c'est-à-dire l'acteur n'est pas un interprète, l'acteur est un créateur, c'est-à-dire qu'il recrée quand il faut qu'il transmette quelque chose. Et ça, c'est une chose fondamentale, qu'elle soit pour le théâtre, pour les arts plastiques, pour la danseur, en fait, tout ce qui est Tout ça, ça c'est une approche fondamentale que Jacques a appris beaucoup, et on en parlait hier, quand on sent les gens qui sortent de chez Lecoq, ils recréent, ils créent, ils considèrent eux-mêmes comme des créateurs, c'est-à-dire que quand ils arrivent avec quelque chose qui vous montre, il y a eu une démarche qui fait qu'on a pris on a fait un tout des éléments qu'on vous a donné, et ça Lecoq a appris ça en fait, il travaille sur chacun et il a appris à chacun comment selon ses possibilités on pouvait faire cette démarche.
Moi j'ai fait cette école très jeune, à 17 ans, et pour moi d'aussi commencer comme ça avec quelqu'un qui tout de suite était avec les élèves de tous les pays du monde, moi j'ai même pas parlé français quand j'étais là, cette recherche de travail avec les autres, tout est basé sur l'improvisation et matière, mais comme Vincent dit, c'est une école qui provoque, il provoque les gens, il dit que je suis l'obstacle, je dois mettre les obstacles une après l'autre, il faut que vous grimpez le mur, il faut que vous cherchez, et c'est ça, il donne, je crois il aide les gens d'être forts, d'être capables de gérer leur propre matière, de créer, et le fait que c'est approché par le physique, il dit que si le corps n'est pas engagé, le mot il tombe par terre, il est mort, il n'a aucune... Alors si on n'est pas engagé physiquement, si on ne comprend pas, si on ne sent pas, parce que c'est tout basé, un acteur doit être dans un état de disponibilité totale tout le temps. Il ne faut pas qu'il réfléchisse, il ne faut pas qu'il a... Il ne faut pas qu'il a mémoire, il faut qu'il est là, présent, le moment. Et tout le reste, c'est action, réaction, tirer, pousser, le magie. Et ils mettent un élève, on passe des mois d'être les matières, l'argile, la terre, le feu, le vent, l'eau. Et ils chargent ces élèves avec des sensations qui plus tard peuvent être utilisées sur scène. Ils utilisent le mot beaucoup mystère et magie. Et fantasy, et tout ça, c'est bien. Il parle pas que... Oh, it's too difficult to describe.
je me rappelle dans ce qu'il écrit que son ambition était de donner aux élèves les moyens de se réparer eux-mêmes. Je ne sais plus comment il dit ça, mais il dit quand j'explique que quelque chose ne va pas, je suis comme le mécanicien qui parle d'une voiture. Ce n'est pas pour dire que la voiture ne marche pas, ça c'est très facile. Mais c'est pour dire aussi pourquoi ça ne marche pas, trouver pourquoi ça ne marche pas, et ensuite proposer ce qu'il faut réparer pour que la voiture marche. C'est la première fois que je l'ai vu écrit de cette façon-là. Et...
Oui, ça me paraît une bonne description. Oui.
Et aussi, il a une phrase que j'adore, qui est sur le cover of the book. C'est « Le but du voyage, c'est le voyage lui-même. » Alors, jamais cherche la fin du voyage. C'est bête de dire que je vais arriver là et c'est bon. Alors, ça continue. Tout bouge, ça continue.
Le but et le chemin.
Voilà.
Donc, vous vous retrouvez dans une troupe déjà brassée de nationalité. Parce que je me rappelle avoir connu l'époque des acteurs indiens. Et ouais. Puis...
On a toujours.
Voilà. Avec donc un fort pourcentage d'élèves de chez Lecoq. À ce moment-là, vous travaillez comment? Il y a un metteur en scène, il y a des séances à la table, il y a quelqu'un qui a déjà prévu les déplacements des personnages et ce qu'ils doivent dire, ou non? Je pense que c'est normal.
Les déplacements, surtout. Comment on explique ça?
Non, il y a un travail. On travaille sur ça, les gens pour les acteurs proposent. On travaille sur des systèmes d'improvisation, souvent. Mais on a un langage commun, et à un moment, il y a des directions qui sont prises dans le spectacle, et souvent, c'est pas dit qui fait la mise en espace ou mise en scène, je sais pas comment dire. Oui, il y a une propre démarche, mais l'acteur est très impliqué dans sa responsabilité et dans ce qu'il a apporté.
Chaque acteur doit vivre son propre rôle. Moi, je crois que le mettre en scène, c'est une chose, c'est nouveau, presque. Je crois que le besoin, c'est de réunir les gens autour d'un thème et travailler autour du thème avec le maximum de liberté, de fantaisie, de générosité, de recherche. Et moi, j'ai pris la place plus qu'avant comme metteur en scène parce que je suis quelqu'un qui est là depuis le début. Il y a un autre acteur, mais lui, il part souvent, il a pris les grandes breaks.
Vous représentez donc la sagesse de l'ancien ?
Non, c'est pour avoir une façon, une forme, parce qu'on a essayé de continuer la mise en scène plus collective, qui était vraiment, parce qu'on était 7 acteurs pour 25 ans, les mêmes. Alors là, c'est un collectif. Parce qu'on était tout jeune, on a commencé sur la même étape. Dès que ça a commencé, que les gens, ça bouge, parce que tout bouge, et les gens arrivent, des autres nationalités, des autres cultures, tout ça, ça a devenu un peu confus. Et il y a une grande demande que quelqu'un quand même fait un peu pilote, c'est tout. C'est de piloter, c'est pas pour dominer. Non, maintenant, quelques décisions comme l'espace, les costumes, tout ça, c'est un peu plus géré par certaines qui sont des spécialistes. Ma femme qui fait le décor, les masques, elle a fait ça depuis 25 ans, c'est elle qui sait. Alors s'il faut que tout le monde parle de chaque détail parfois, ça devient une confusion qui n'aide pas.
D'accord, donc une création théâtrale qui repose sur des acteurs majeurs, autonomes, et un metteur en scène qui est le regard extérieur, qui fait des choix.
Qui essaie de... Oui, qui parfois se fait des choix. Ouais. Mais le choix, il y a un moment qu'on dit, oui, c'est juste. Et c'est le mot que Jacques toujours utilise, c'est juste. Ça veut dire... Oui, c'est bon. Et on sent ça, on sait quand ça...
C'est vrai, par exemple. Tout. Ouais. Quand, par exemple, on a fait l'adaptation de L'Homme qui rit, c'est vrai que l'adaptation a proposé des choses et c'est devenu clair à certains moments comment notre espace fonctionnait. Je veux dire, si on est assez précis, assez clair dans ce qui est proposé, et c'est vrai pour Shakespeare aussi, bien sûr, je veux dire, la mise en espace, il n'y a pas à imposer d'autres idées au-dessus de ça. Si on veut, on peut le faire. Moi, je critique pas les metteurs en scène qui font leurs idées. Mais si on veut pas imposer d'idées, on peut très bien. Le texte est un guide pour le spectacle.
Le texte, c'est le moteur. Et on a toujours dit, nous, surtout parce qu'on a commencé de découvrir, nous, le théâtre, la jeune équipe football, était en train de chercher une façon de raconter, on dit toujours dit de raconter une histoire. Alors si on reste fidèle et respectueux à la matière et on arrive de raconter cette histoire, c'est ça qui nous guide. Il faut rester toujours sur le thème. Il faut pas, comme tu dis, on n'a rien contre les idées, bien sûr. Mais quand même, il y a le guide, c'est la matière. Alors il faut être juste, il faut être honnête. Il faut essayer de rester honnête avec la matière. Après, le théâtre, c'est une des choses les plus riches parce que ça inclut tout. Ça inclut la poésie, la danse, la musique. Nous, on a... Musique, c'est une énorme part de les spectacles de football. Il y a toujours de musique, toujours, toujours, toujours. On ramasse les éléments et hop, on jette en l'air.
Eh bien, merci. Donc, en ce moment, le moment où l'interview est prise, L'Homme qui rit, son adaptation au football, se joue à Dijon. N'en profiterai pas. Pour les étudiants du CFOAD, je vous mettrai au courant qu'ils sont disséminés un peu partout, en France, en Suisse, etc. Je vous mettrai au courant si j'ai des dates du moment où le Footsport sera en tournée du côté de chez vous. Au revoir.
Au revoir, merci.
Goodbye. Thank you.